Briefing the Pests.
Et bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Nous revenons ensemble chaque mois sur des sujets de société, d'histoire et de tech, mais également à tout ce qui peut faire l'actualité à Oslo et en Norvège. Nous sommes le vendredi 20 octobre et je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure. Avec nous aujourd'hui, autour de la table, nous avons Valentin. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Eh bien, tu vas revenir à tes premiers amours. Tu vas nous parler d'histoire.
Et exactement, une histoire de plus en plus récente, au fur et à mesure du temps. Et
oui. Très bien. Et nous avons aussi Roxane. Bonsoir Roxane. Bonjour Roxane.
Bonjour.
C'est toujours pas le soir. tu t'es intéressée à un produit de grande consommation.
Mmh. Exactement, la bière.
La bière.
J'ai hâte d'en parler.
Et à la technique, aujourd'hui, nous avons Emma. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui?
Moi, je vous ai préparé un petit shopping tech pour affronter l'hiver.
Ah, je crois qu'on en a bien besoin. Ouais. Ça s'est vraiment rafraîchi ces dernières semaines-là. Ouais. Et quant à moi, je vous ai réservé une petite chronique en deuxième partie d'émission. Restez avec nous jusqu'au bout, on va passer un très bon moment. Les actualités de la semaine, Valentin, est-ce que tu as vu passer quelque chose au niveau politique?
Je crois que c'était à peu près deux semaines, il y a une manifestation des Samis du coup qui a eu lieu.
C'est il y a environ une semaine, 10 jours.
Mm. Et c'est le gros truc que j'ai vu sur Oslo.
Avec Greta Thunberg qui est encore revenue.
Elle est revenue, d'accord.
Avant de se faire arrêter en Angleterre. Non,
c'est ça, exactement. C'était le 11 octobre à peu près, la première manifestation, il me semble, devant le tribunal, je dirais, à Oslo, sur place principale. Moi, je marchais dans
le Parlement.
Rue. Parlement, voilà. Bah oui, totalement. Plus logique. Non, je marchais dans la rue et je suis tombée devant. Et donc après, j'ai reconnu les Samis parce qu'il y avait tout le monde qui était en habit
traditionnel.
Merci, voilà. Pardon. Et donc, l'actualité, qu'est-ce que tu as vu, toi, Valentin?
Moi, ce que j'ai compris rapidement, c'est qu'il y avait... c'était à peu près en mars, déjà. Faut remonter en mars comprendre ce qui se passe là.
Les éoliennes.
Les éoliennes. Une très bonne chronique.
On en avait parlé.
On en avait déjà parlé justement du problème des éoliennes et des Samis.
Donc pour moi, dans le contexte, il y avait un gouvernement, je crois en 2012, qui avait autorisé la construction d'une ferme éolienne. Ferme éolienne.
Ouais. 151 éoliennes plus précisément.
Mmh. Et c'est la plus grosse ferme éolienne d'Europe. Terrestre. Mm-hmm. Il y a du coup un gouvernement en 2012 qui a autorisé la construction d'une ferme éolienne près de Trondheim, il me semble.
C'est.
Fessen. Sauf qu'en fait, c'était sur des terres samis. Mm-hmm. Et en parallèle, la Norvège s'était engagée à beaucoup de temps à respecter les terres samis. Enfin, souvent, en terres samis, c'est notamment en fait, des terres qui sont utilisées pour l'élevage de rennes.
Oui.
Les rennes sont des animaux qui voyagent beaucoup pour trouver de quoi s'alimenter. Oui. Et c'est notamment une zone où ils allaient s'alimenter. Donc quand on a des éoliennes dessus, en général, les rennes, c'est un peu plus compliqué pour les rennes d'y aller.
Et sachant que l'élevage de rennes est une des ressources principales de la population Sami. Donc moi, ce que j'ai lu, c'était que c'était une atteinte un peu aux droits humains et aux droits des Samis directement. Donc c'est ce qu'ils revendiquent. Il y a aussi la Cour suprême, en 2021, il me semble, qui avait voté pour la destruction ou la disparition de ces éoliennes, de ce champ à éoliennes.
Ça a été voté, mais il ne se passe rien.
Ouais, c'est la Cour suprême.
C'est pour ça qu'ils manifestent.
En fait, ils ont dit que c'est illégal que les éoliennes soient construites sur ce terrain-là. Mmh. Mais ils n'ont pas donné un ordre de destruction.
Oui, bah
et
ouais.
C'est là où il y a le problème, en fait. Le gouvernement est tenu en fait, de demander au moins la destruction. En tout cas, c'est ce que les Samis demandent.
Ouais.
Et le gouvernement renvoyait un peu la balle à l'entreprise qui avait construit cette ferme éolienne. Mmh. Et bon, finalement, en mars, du coup, il y a cette manifestation avec les Samis où le gouvernement a dit qu'il rentrait dans des négociations, qu'il allait considérer une option qui permettrait de à la fois de satisfaire les Samis, à la fois satisfaire les, la société du coup, qui exploite les éoliennes, Scarcraft, je crois. Enfin, et en fait, justement, depuis mars, ça traîne.
Ouais,
Et le gouvernement ne veut pas en fait, demander la démolition des éoliennes.
Oui, c'est ça. C'est qu'ils ne veulent pas que du tout que les éoliennes soient détruites de manière générale. Donc, c'est plus ça. Donc, trouver un entre-temps, un juste milieu, c'est hyper compliqué, je pense. Et surtout que c'est... Enfin, dans les articles que j'ai lus, c'est aussi le fait que c'est pas du tout la première fois, c'est pas la première fois qu'une terre Sami soit détruite ou utilisée pour à des fins qui ne sont pas pour les Samis, et que c'est aussi une atteinte aux droits des Samis, et que c'est le début d'une continuation de projets comme ceux-ci qui vont détruire leur terre, quoi.
Mmh. Ouais, parce que l'exploitation de minerais qui peut se mettre en place dans les terres Samis, et en Suède, il y a aussi, c'est un pays qui exploite beaucoup la forêt. Et du coup, il y a aussi ce risque que l'exploitation forestière aille empiéter sur la terre Sami. Ce n'est pas déjà le cas, d'ailleurs. Donc, oui, voilà.
Ouais. Très bien. D'autres nouvelles de votre côté, Emma?
Non, pas de grandes nouvelles. Moi, je me prépare à aller dans le monde virtuel en novembre. Donc, voilà, mes nouvelles sont à la Convention VR nordique. Le 15 novembre, ça va.
À Hamar.
À Hamar.
Sympa. Voilà.
Très bien. Ouais. Il y a aussi le concert de Pomme qui arrive dimanche prochain.
Il y a le concert de Pomme dimanche prochain.
À Parc-Théâtre.
Oh, sérieux, elle vient ici?
Ouais. Oui. Et alors là, franchement, la voir dans une petite salle comme ça, c'est une occasion pour donc tous les fans. Si tu as envie de verser ta petite larme, je pense qu'il faut y aller.
Ok, et c'est gratuit, c'est ouvert. C'est...
Ah non, c'est pas gratuit.
Ouais,
non,
c'est
non.
300 couronnes.
Okay. Ouais, 300 couronnes, il restait des places, il me semble, la dernière fois que j'ai regardé.
Ok, je regarderai parce que je savais pas. Moi, je vais voir le groupe dont je vais vous parler de ma musique tout à l'heure, The Sacred Souls, il passe mercredi. Donc, je vais les voir, je suis contente. Un peu de soul en concert.
Un peu de love.
Ah, c'est ça, oui. Mais donc, Pomme passe, je ne savais pas.
Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'y serai.
Alors, ah, trop bien. Fois, est-ce que tu connais la chanteuse pop Aurora?
Alors, de nom peut-être, mais
voilà, Aurora et Pomme ont fait un morceau ensemble. Mm-hmm. Du coup, voilà, je pense que ça donne un peu une dimension internationale à Pomme, en tout cas en Norvège, puisque Aurora est norvégienne.
Alors, est-ce que Aurora va débarquer au concert de Pomme en mode
Écoute, t'as
suspense.
Ouais, suspense. Je vous dirai ça à la prochaine émission. Non, le morceau n'existait pas. Ah, si, le morceau existait déjà. Non, elle n'était pas venue. Moi, je l'avais vue à Blow.
Ouais.
Ah ouais, Aurora ou non Aurora.
Non, Pomme.
Pomme. Ah, c'est la deuxième fois qu'elle vient.
C'est la deuxième fois qu'elle vient. Comme ça elle est venue à Blo et voilà, moi j'avais pleuré. Enfin, après, je m'étais fait embouter. Ben moi non plus. Et
ouais, mais après en live j'imagine que
Mais fait, voilà, elle a une espèce d'aura, une émotion qui se transmet comme rarement j'ai vu chez des artistes. Ouais. Elle m'a bouleversée, voilà.
Ah, je vais me renseigner.
Je ne saurais que vous conseiller, mais bon.
Donc le concert a lieu dimanche.
Je vous souhaite une expérience similaire, mais bon, c'est pas donné. Enfin, voilà, ça ne
si vous avez l'occasion, il me semble qu'il y a encore des places. Le concert a lieu dimanche prochain, le 29 octobre. Je crois que c'est 19h30, mais bon, enfin, en tout cas, dans ces eaux-là, prévoyez votre soirée si vous voulez aller voir Pomme en concert à Parc Théâtrette.
Ouais.
On va enchaîner, à moins qu'il y ait d'autres infos qui tournent autour de la table. Des choses que vous avez vues. Bon, la Norvège éliminée de... Enfin, qui ne sera pas représentée à l'Euro de football. Ouais. Après leur défaite contre l'Espagne 1-0 la semaine dernière.
Dans l'Espagne, quoi.
Bah oui, c'était un peu dur. La marche était un peu trop haute pour...
Je suis allée voir un match, là, il y a un mois, justement, pour l'Euro. Je sais plus qui c'était, d'ailleurs. Bon, aucun intérêt, en fait, ce que je raconte, parce que je n'ai pas de souvenir de ce que j'ai vu. Donc, on va changer de sujet tout de suite.
Mais c'est un peu le scandale...
J'ai oublié, je sais plus jusqu'à Haaland quoi qui jouait, c'est tout ce que je peux dire.
je pense que c'est un peu la honte pour la sélection norvégienne parce qu'ils ont quand même deux stars dans leur rang avec comment il s'appelle Haaland
et
Odegaard.
C'est cela.
Je crois bien et donc là pas d'euro pour eux voilà. Entre ça et le même week-end, la France éliminée de la Coupe du Monde de rugby. Voilà, c'était pas.
Non, mais les nouvelles ne sont pas bonnes.
Pas très jojo.
Soyons honnêtes.
Si on met tout à la même échelle.
Si on met tout à la même échelle. Voilà.
C'est pas dingo ce qui se passe.
Non, et c'est pour ça qu'hors antenne, on m'a dit de de recommander à l'antenne mon mon remède à la morosité
ambiante. Quel est ton remède ?
Eh ben, j'ai mis mon VPN en route et j'ai regardé des replays de caméras cachées de François Damien. Et là, je dois vous dire que voilà, si vous voulez vous remonter un peu le moral, ricanade assurée et puis ouais. Ça fait un bien fou. Ouais.
C'est toujours voilà. Bon de rire. Ouais, de toute façon, voilà, ça
bon de rire
déstresse. Moi, j'ai découvert Douli, de l'humoriste qui passe des fois sur France Inter, et pareil, en pleurer de rire. Si vous la connaissez pas.
Elle a sa voix sur Wes.
Non. Je ne savais pas ça.
Ah, si, sur Wes, ils ont fait des collaborations comme ça improbables en France. Il y avait eu le rappeur Al Capote.
Ouais. Ah, sérieux, il y a Al Capote. Ah non, génial.
Et donc, il y a Douli qui a cette voix d'alcoolique, alors qu'évidemment, elle est sobre.
Mais excellente humoriste au demeurant. Si vous la connaissez pas, ses chroniques, moi, elles m'ont bluffé. Vraiment très encore un bon moment pour rire.
Et s'il y a des fans de Kaamelott aussi, personne.
Non. Je suis lyonnaise, donc forcément. Et du coup, j'étais au lycée avec un des comédiens de Kaamelott. C'est toujours un peu rigolo de le voir en slip 20 ans plus tard.
Et du coup, étant donné qu'on est dans un autre pays, il y a des vidéos qui ne sont pas accessibles en France, qui sont maintenant accessibles quand tu es à l'étranger. Donc moi, par exemple, j'ai encore un numéro français, mais si je me connecte à ma Wi-Fi chez moi, je suis identifié comme étant en Norvège. Et du coup, j'ai accès, j'ai accès à tous les épisodes Kaamelott. Et c'est aussi un moyen de rire. Bon, pas avec l'actualité aussi, puis après, il faut aimer l'humour Kaamelott. Mais...
Oui. Et moi, mon remède, c'est ce matin, je suis allée à la salle et j'ai réécouté un nouvel épisode du Floodcast dont il me semble que j'en ai déjà parlé. C'est un podcast avec Flaubert et Adrien Méniel qui sont vraiment très marrants. En fait, ils invitent deux personnes à chaque fois. Donc là, j'ai réécouté celui avec Pio Marmaille et Olivier Nakache.
Ah, très bien.
Donc super. Pio Marmaille, je l'adore, et Nakache aussi. Et c'est juste super drôle parce que c'est quatre personnes qui discutent, quatre personnes drôles à chaque fois. Donc vraiment, je le recommande, c'est le Floodcast.
Ok.
Voilà, c'est vraiment. Mais enfin, je me tapais des barres en train de marcher sur le tapis roulant, quoi. Je rigolais toute seule.
Comme moi avec François Damien. Et voilà.
Et ben merci pour vos recommandations anti déprime.
C'est ça.
Il y a toujours la marche le dimanche. Hein. Ça c'est très norvégien, mais ça marche très bien aussi.
Oui. Oui, mais c'est pas drôle.
Non, mais si tu écoutes ton podcast rigolo en marchant à l'extérieur en Norvège, là tu as un peu c'est bingo.
Ah voilà,
là t'as tous les.
Exactement, c'est x200 quoi.
Voilà. Est-ce qu'on n'a pas une petite musique avant de passer à la chronique de Roxane pour s'aérer un petit peu?
Ah bah alors justement, Roxane, parle-nous du groupe que tu vas aller voir bientôt.
Alors c'est The Sacred Souls. Avec mon bel accent anglais, que j'ai découvert il y a un mois à peu près par un ami norvégien. C'est de la soul récente, mais c'est vraiment top. C'est très posé, très chill, belle parole, belle voix, belle mélodie. Tout est beau. Donc je recommande vivement d'écouter ce groupe qui a sorti un album pour l'instant.
Et le morceau s'appelle Sorrow for Tomorrow.
Écoutez Sorrow for Tomorrow de The Sacred Souls. Bien. Alors, Roxane, dis-nous tout. Pourquoi la bière coûte si cher en Norvège?
Eh bien, je ne sais pas. Si. Mais...
voilà, fin de l'histoire. C'était son investigation Erasmus.
Fin de ma chronique, merci.
Non, mais... 4 euros la canette, ça fait mal. Ça fait mal au portefeuille.
Non, mais on m'avait prévenu avant que je vienne. On m'avait dit, oui, Roxane, c'est cher, vraiment très cher. Tu ne vas pas pouvoir te bourrer la gueule autant que tu le fais en France. Mais je ne croyais pas trop. Je me suis dit, bon, on va trouver des solutions. Non, c'est très, très, très cher. Ouais. C'est vraiment... je m'en suis rendu compte en arrivant devant les prix que c'est trop, quoi. C'est pas possible. Alors, je vous donne un ordre d'idée pour celles et ceux qui écoutent et qui n'habitent pas en Norvège. Ce pays est le plus cher pour l'alcool et le tabac en Europe. pour les fumeurs. Alors, la gorge se serre. Un paquet de tabac roulé est proche de 30 euros. Voilà. C'est atroce. C'est très, très, très cher. Et alors, les prix de l'alcool et du tabac en Norvège sont supérieurs de 120% à la moyenne européenne. L'Islande occupe la deuxième place à 30% derrière le niveau de la Norvège quand même. Donc, on est vraiment, vraiment très haut. Alors, pour consommer de l'alcool et de la bière en Norvège, il faut aller en bar, enfin, notamment de la bière, il faut aller en bar ou en supermarché, comme vous le savez. Mais pour les bars, il faut avoir 20 ans ou plus, la plupart du temps.
Ah, c'est pas 18 ?
Non, c'est 20 ans ici.
Voire même 21, ouais. Souvent, voilà. C'est rarement.
Donc, c'est pas comme en France. Et en supermarché, la vente d'alcool est interdite après 20 heures en semaine et 18 heures le samedi. Et évidemment, le dimanche, c'est... Non, c'est pas possible. Sous le nez. Sous le nez, si on veut se brûler la gueule.
Être prévoyant, ça, c'est un peu la base. C'est ça.
Prévoir sa mort. Il faut être organisé pour se mettre une mine en Norvège, quoi. C'est quand même dingue. Ouais. Et que le problème, c'est qu'en bar, c'est très, très, très cher. Donc, en supermarché, c'est environ... en moyenne, c'est 35 couronnes pour une bière, en moyenne. Donc, environ 3 euros. Pour juste une canette. Et en bar, je vais essayer de le dire calmement, la bière n'est que très rarement en dessous de 110 couronnes, donc 9,50 €. 9,50 € pour 40 centilitres de pisse. C'est super cher. Parce qu'évidemment, tu ne bois que de la blonde dégueulasse qui
en
coûte
même
3
temps,
euros.
À Paris.
Non, mais bien sûr, mais voilà. Pas 9,50 €, quoi. À Paris, tu la trouves à 3 euros.
Au Tax Club, la bière, donc une bouteille d'Heineken à la fond de 33 centilitres, coûte 14 euros, je crois.
Eh bien, tu n'y vas pas. Alors,
au Rex Club à Paris, mais je vais plus
tu
au...
bois
non,
de l'eau.
Trop vieille pour aller au Rex Club à Paris, mais club à Paris, c'est 15 euros n'importe.
Eh bien, tu vas à Château d'Eau, c'est 3,50 ta blonde.
Et voilà, quoi. Je dis pas le contraire.
C'est très bien, mais non, mais parce que tu as la possibilité en France de trouver. Il y a des endroits où ça coûte cher, je suis d'accord. Mais tu as la possibilité de, en happy hour de bourrer la gueule à 17h parce que ça coûte 3,50 €. Ouais. Ici, non. Tu as le Lostakos. Voilà, le bon plan pour ceux qui veulent venir en Norvège ou ceux qui habitent ici. Lostakos, c'est horrible. C'est comme endroit si tu manges des burritos, mais la bière est à 50 NOK.
Ah.
C'est pour ça qu'il y a autant de monde.
C'est ça, voilà.
Oui, d'accord. 50 couronnes.
Non, mais il y a quelques plans, il y a quelques petits bars comme sûr. Ça où la bière est à moins de 100 couronnes, par exemple à 85. Ce qui revient, le cher. Prix d'une pinte dans n'importe quel bar à Paris, qui est à 7-8 euros.
Oui,
aussi.
Complètement. Mais en France, on a les happy hours et ça me manque énormément.
Ouais, je sais.
Parce
je
que
sais.
Là, tu t'organises, quoi. Mais bon, ici, c'est pas possible. Et pour le vin, donc alors, si on veut boire autre chose que de la bière, il faut aller dans un vide monopolette. Mm-hmm. Donc littéralement, le monopoly du vin, je crois. Quelque chose comme ça,
monopole,
je parle pas
d'anglais. Monopole.
Voilà, oui.
Non, pas le monopole.
Ah non, mais c'est un mais monopole c'est d'État. Donc
j'avais lu ça, j'avais lu Monopoly.
Oui, oui, non, mais
un peu, j'aurais dû mieux lire, mieux me renseigner. Donc, ah oui, parce que je veux aussi parler du cidre qu'ils vendent ici. Qu'est-ce que vous en pensez du cidre ? Je mets des gros guillemets autour du mot cidre.
Ah, ouais. Ah non, là, t'as été déçu. Toi, t'as goûté le cidre à la poire immonde, hyper
mais
sucré,
de tous,
dégueu.
Tous les cidres que tu prends en supermarché à la framboise à la poire, c'est plus un soda pétillant avec soi-disant de l'alcool dedans que du cidre.
Oui, non, on n'est pas. Il y a si au vide Monopoly, tu vas trouver des cidres artisanaux qui sont la bien meilleure.
Oui, évidemment.
Mais c'est vrai que ça fait un peu mal à la gueule de retrouver aussi les marques françaises de cidre brut de Bretagne qui coûtent 2,50 €. Voilà. À Auchan, là, tu le payes 9-10 euros.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et le vin, moi, je suis une grande adepte de piquette. Mmh. J'adore ça parce que c'est pas cher en France. Mais ici, la piquette coûte 10 balles.
Bah oui.
Une grande adepte de la piquette.
Oh, pour une bouteille de piquette à 4 balles.
Mais ouais, c'est horrible. Et le cubi de 3 litres, 35 euros. C'est énorme. C'est un budget, quoi. C'est horrible. Ouais. Enfin, moi, je bois beaucoup moins, donc c'est pas forcément plus mal. Donc, ma mère, on est très contente.
Erasmus, quand même, faut profiter.
Bah, c'est ça, quoi. Je l'ai aussi pour me la mettre, mais non, c'est pas possible. Ouais. C'est trop, trop cher. Et donc, la réponse à ma question de pourquoi la bière coûte-t-elle si cher, c'est tout simplement parce que l'État et l'Europe imposent des taxes très fortes sur les boissons alcoolisées en Norvège. La TVA est lourde au nom de la lutte contre l'alcoolisme, mais bon... Il faudrait peut-être que ça se mette ailleurs, mais ce n'est pas grave, on va éviter d'y penser, parce que c'est très bien les prix qu'il y a en France actuellement. Les brasseurs norvégiens doivent s'acquitter de presque 270 euros par 100 litres de bière, et en plus une TVA à 25%. C'est le pays le plus taxé d'Europe, comme on le sait. Donc c'est très très cher, et voilà. Donc c'était mon petit coup de gueule de la journée, et c'est une des seules raisons pour lesquelles j'ai envie de rentrer en France, c'est pour aller me boire une petite pinte après les cours, sans avoir à me ruiner.
Eh ouais, non, mais on se comprend. Ouais. Nous, voilà, on est rodés, ça fait longtemps qu'on pratique. C'est vrai que
j'ai pas le salaire norvégien qui va avec, quoi.
C'est vrai que quand on va dans un resto en France, genre, en Bourgogne, au hasard. et tu évidemment. Te retrouves dans le petit resto du coin où tu as le quart de vin, entrée, plat du jour et dessert pour 14 euros.
Ouais, voilà.
C'est vrai que voilà, là, il y a une petite satisfaction.
Là, pour 14 balles, tu as quoi ? Un verre de chardonnay
dégueulasse. Non, t'as même pas un sandwich. Non, moi, c'est ce qui me rend folle en Norvège. Ce qui m'a toujours rendu folle, c'était le prix des sandwichs.
Ouais, c'est vrai.
C'est que du pain.
Le pain bagnat à 3 euros. Ouais, le pain bagnat à 3 euros. Le truc qui te cale pendant 6 heures.
C'est ça.
Ouais. Ah bon, ben voilà, il faut, aller à, faut se donner rendez-vous à Los Tacos. Alors,
bah ouais, exactement. Allez tous. C'est jusqu'à 21h. Après, c'est 80 nocs. Donc, ça reste quand même moins cher.
Donc, il y a quand même un happy hour. Il y a quand même à trouver l'endroit où ils font du happy hour.
Oui, ouais, c'est ça. Après, l'endroit vraiment. Pas dingue, quoi. Je sais pas si vous êtes déjà rentré dans l'Ostacos. Ouais. Ouais.
Mais Emma, n'y a-t-il pas de happy hour à Oslo ?
Non, non, non. C'est un peu comme les open bars. C'est assez rare. Ou alors vraiment très privé, les open bars.
Et tu dirais la raison, ce serait pour...
Eh ben,
parce
déjà,
qu'ils aiment bien pousser à la consommation quand même, les Norvégiens. Ils bah non,
mais
alors déjà, de...
c'est.
Mais pas avec l'alcool, ni le
non,
tabac.
Non, bah avec l'alcool et tout ça, c'est, une... c'est vraiment les lois. C'est dans la loi. Sont hyper dures. Par exemple, j'en sais rien, il y a une. Il y a eu plusieurs compétitions de pétanque, par exemple, à Oslo. Donc, on imagine en France, Ricard, ouais, on va son store, on filerait des coups de pastis gratos, c'est tout ça. Bon, bah là, c'est pas possible. Hormis avoir les couleurs de Ricard, par exemple, vous pourriez même pas avoir le nom de Ricard.
Tu peux faire la promotion.
Tu peux pas faire de la promotion. Ouais. Tu peux pas vendre de l'alcool publiquement comme dans la rue. Bon, bref, voilà.
C'est nul, quoi.
C'est vrai qu'on peut pas faire le Beaujolais nouveau non plus. Enfin, voilà, il y en a... Mais les lois sont très, très encadrées. Même dans un bar, il est interdit de faire la promotion d'une marque d'alcool en particulier.
Ouais.
Et puis, t'as aucune publicité d'alcool à la télé. Enfin, bon, voilà.
Ouais. Bah après, en France, c'est un peu pareil. T'as les... celles pour l'alcool, c'est des bières à 0%, par exemple. Mais plus maintenant, les...
Non.
Ouais, si, en fait. T'as les panneaux publicitaires avec le Jack Daniel's, des trucs comme ça. Ouais.
Bien. Bon, ben, on rangera notre frein pour la bière. On attendra une bonne occasion de se prendre une bière ensemble.
Par contre, on peut noter que là, niveau bière, pour le coup, tu peux te renseigner. Alors là, c'est beaucoup plus cher, bien sûr. C'est que la Norvège est, est un des meilleurs pays d'Europe quand il s'agit des bières artisanales.
Eh bien, écoute, je n'ai pas l'argent pour ça.
Il y a donc des bières extrêmement primées. Oui, là, on est sur plus 8, 9 euros la bière.
Ouais. À moins qu'on les contacte et on dit qu'on va faire
Une
investigation journalistique.
Un reportage là-dessus, documentaire de 13 minutes.
Ouais, on pourrait pas parler de bière comme ça à la radio, par exemple, je sais pas.
Mais après, c'est un podcast, c'est pas la même chose.
Oui, c'est pas pareil.
Et puis c'est pour la France.
Mais qui te dit qu'on enregistre vraiment à Oslo en Norvège ?
C'est pour le rayonnement culturel.
Bien, et bien, sans transition aucune, on va passer avec toi, Valentin. Tu vas nous parler d'un tout autre sujet.
Ouais. Oui, alors, je voulais parler de la Seconde Guerre mondiale. Ah. Alors,
comment passer de la bière à l'Ostacos ?
C'est un peu de couette ou un truc un peu...
Je ne contrôle pas l'agenda mondial. Et, je voulais parler de ce sujet-là. Donc, il se trouve que les événements arrivaient au même moment où je lisais, où je m'intéressais un peu au sujet. Mais du coup, dans toute guerre, il y a aussi des héros. Du coup, ça, on peut aussi parler de ces moments-là, des moments héroïques. Mm-hmm. Alors, du coup, on parle de la Seconde Guerre mondiale.
Fais gaffe. Attention.
Non, alors, moi, en tout cas, quand je suis arrivé en Norvège, j'avais un peu du mal à je pensais qu'il ne s'était rien passé, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale en Norvège. Parce que, tout simplement, dans les leçons d'histoire, on n'en parlait pas trop.
Voire pas du tout. Parce
que la guerre s'est arrêtée aux frontières de l'Allemagne.
J'ai découvert ça en arrivant ici aussi.
Ouais, moi aussi.
Ça n'a pas touché d'autres pays. Quand on étudie l'histoire en France, ou notamment, c'est très... centré sur le pays dans lequel tu étudies, quoi. En France, c'est sur la France. Ouais. En Italie, moi, j'étudie sur l'italien, l'Italie. Mmh. C'est...
Puis comme les totalitarismes, ils partent d'Allemagne, d'Italie au début, nous, effectivement, on s'intéresse. Enfin, moi, vraiment, l'histoire d'un Scandinavie, j'ai que dalle. Du coup, petit rappel au contexte. Alors, quand est-ce que Hitler devient chancelier ?
33.
Mais
leçons d'histoire remontent.
Alors, du coup, Hitler tout doucement va s'imposer en Europe. Alors, il va pacifiquement, entre guillemets, annexer les Sudètes avec un accord entre la France et le Royaume-Uni. Et puis après, on sent un peu la sauce monter avec l'Allemagne qui se militarise progressivement. Et finalement, c'est la Pologne qui est envahie par l'Allemagne en 1939. Et la France et l'URSS et le Royaume-Uni déclarent la guerre à ce moment-là à l'Allemagne. Alors si en France, on avait un peu prévu le coup en avance en faisant des traités avec d'alliance militaire avec le Royaume-Uni et l'URSS, la Norvège, elle pariait plutôt sur la neutralité, ce qui leur ressemble bien. Donc elle faisait des pactes de non-agression, en fait, avec la Suède et le Danemark. Et elle rentrait dans une alliance défensive avec le Royaume-Uni. Autrement dit, en fait, si on avait un navire ou si la Norvège était attaquée, c'était au Royaume-Uni de la défendre. Ce qui permettait en fait à la Norvège de continuer à commercer avec finalement les différents pays en Europe, de bien commercer même, parce qu'en fait ils vendaient de l'acier, ils vendaient beaucoup de marchandises à l'Allemagne et au Royaume-Uni, et surtout ils transportaient de l'acier par bateau au Royaume-Uni et à l'Allemagne, donc ça faisait aussi une rentrée supplémentaire compte tenu de la navigation, et cet acier en fait venait de Suède et du nord de la Suède. Et du coup, pour vendre l'acier suédois, soit on l'envoyait par le port de Luleå, je crois,
en tout cas, ouais. En Suède.
Ouais. Soit on l'envoyait par le port de Narvik, qui est en Norvège. Et pour aller du coup du nord de la Suède à Narvik, on utilisait une voie ferroviaire qui permettait d'amener l'acier à Narvik. Mais alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux ports qui permettent d'exporter l'acier. On a Luleå et on a Narvik. Sauf que Luleå, en hiver, c'est tout au nord et c'est dans une mer quasiment fermée, donc ça gèle. Donc le port n'est pas accessible, en fait. Donc le seul moyen pour les Allemands de se fournir en acier suédois, c'était en passant par Narvik.
Ok.
Et on avait le Royaume-Uni aussi qui se fournissait en acier venant de Narvik. Donc Narvik devient un point chaud, parce que même si la Norvège est neutre, et ben on se retrouve avec deux ennemis en fait qui se fournissent à Narvik, qui est peut-être le seul moyen, enfin l'un des moyens pour stopper la progression de l'autre globalement dans la guerre, c'était de couper son alimentation en acier ou en minerai de fer qui passait du coup par Narvik. Okay. Donc Narvik devient facilement un point chaud. Pour la Norvège, alors nous on se fait envahir en France à partir de. Enfin, on attend à peu près, je crois, un an, mois en fait, avant de se faire envahir. Donc, c'est à peu vers le mois d'avril, je crois, mai. Ouais, mai, on commence à.
Ouais, je dirais, enfin, 1940.
Mai 40, du coup, les Allemands commencent à arriver. En Norvège, un peu plus tôt, on a les Allemands qui commencent à débarquer à partir d'avril 1940 et ils vont prendre progressivement différentes villes, y compris Narvik.
Par la force ou
Par la force, oui. Alors, alors, du coup, ouais.
Non, la Norvège,
donnez-nous.
venez, servez-vous.
Non, mais s'ils sont alliés avec eux économiquement,
au final, la Norvège.
Ils sont fait réquisitionner, entre guillemets, par les.
Mais elle force. Était aussi alliée avec le Royaume-Uni, donc c'est un peu le sponsor officiel de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement.
Ouais.
En acier, quoi, mais avec les deux côtés. C'est ce que. Bref.
Ouais, c'est ça.
Continue.
Et du coup, ce qui se passait, c'est que en fait, la Norvège, ils croyaient pas trop qu'ils allaient se faire envahir. Donc, comme je disais, ils ont fait beaucoup d'alliances neutres. Ils sont pas vraiment militarisés.
Ouais.
Et à chaque alerte qu'on envoyait au gouvernement, en mode les gars, les Allemands, à un moment, ils vont arriver.
Réveillez-vous.
Tranquille, je vois rien.
Tranquille, on fait confiance à Hitler. Et sauf qu'en fait, les Allemands arrivent, enfin par bateau. Et à un moment, genre même ça passe même par la presse en fait. Même si le gouvernement dit non, on n'y croit pas, ça passe par la presse en fait en Norvège.
D'accord, ils sont dans le déni quoi.
Ouais. Du coup, et le gouvernement va vraiment prendre conscience du cas quand ils vont vraiment voir les avions, enfin littéralement, ils vont voir les avions passer au-dessus des villes et commencer à bombarder les villes.
Je crois qu'on a un problème.
Ça commence à brûler là.
Ils ont déporté des Juifs aussi.
Ouais, quand ils étaient en. Ouais, alors.
Enfin, voilà, je crois qu'il n'y en a pas des milliers, hein, mais il y en a quand même.
Pendant l'occupation, c'est ça?
Pendant l'occupation, je crois que c'est en 42 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, oui, justement, par Narvik, dans les îles Lofoten, au-dessus de Trondheim, toute cette partie a eu une partie un peu collabo où ils ont donné des juifs qui ont été déportés aux juifs. Quoi.
Ouais. Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'on.
C'est un des points noirs de l'histoire.
Parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'en avril 40, on a les Allemands qui arrivent et on va avoir progressivement le gouvernement va être remplacé. Le roi va fuir, le gouvernement norvégien va réussir à fuir. Vers le Royaume-Uni et on a un dictateur, un fasciste qui va s'imposer, c'est Quisling, qui lui du coup va collaborer avec les Allemands, il va essayer d'établir un régime de collaboration avec les Allemands, finalement il est un peu mis à part. Bref, à la fin on a un régime de collaboration qui se met en place avec les Allemands en Norvège, avec des SS et qui sont notamment sur place.
Okay.
Donc du coup, en avril 1940, on a les Norvégiens qui se font envahir. et notamment la ville de Narvik qui se fait prendre par les Allemands. Sauf que ça devient vraiment trop touchy pour les Anglais et les Français de laisser les Allemands avoir la main sur Narvik.
Je comprends bien.
Comme ça, ils pouvaient...
Point stratégique.
Il se passait trop de choses. Du coup, on va avoir une opération anglaise, française et des troupes polonaises qui sont encore en vie qui vont pouvoir... qui vont attaquer Narvik, qui vont reprendre en fait, la ville Narvik aux Allemands. Donc, on a une sorte de petite poche en fait, de résistance qui se forme au niveau de Narvik alors que le reste de la Norvège est en train de tomber.
C'est bien ces gens du Nord.
Mais finalement, en fait, ça va durer que... le 28 mai 1940, on considère que la ville est véritablement libérée.
Ouais. Ah oui, c'est très rapide.
Ils arrivent en avril, en fait.
Bah oui. En avril, ils arrivent et en juillet, elle est déjà libre.
En avril, tu as les Allemands qui arrivent. Ouais. En 28 mai 1940, on a les troupes alliées, donc Royaume-Uni, ouais. France, Pologne, qui vont dégager les Allemands de Narvik.
Ah oui, donc en 3 mois, c'est fini, quoi, c'est plié.
Ouais, sauf que...
Ok,
sauf que... En France, on se prend la Blitzkrieg, donc c'est la conquête express de la France par l'Allemagne, et on se dit, les gars, désolé, mais on a un peu des choses au pays à régler. Donc, donc en fait, finalement, en 3 jours, on a les troupes alliées qui repartent, donc le 30 mai, qui abandonnent en fait la Norvège, toute la Norvège, pour aller défendre le front français. Et ça, c'est très bien retranscrit dans un film sur Netflix qui s'appelle La bataille de Narvik.
Okay.
Et du coup, on entend des gens parler français.
Super.
Et après, d'autres points chauds.
Il se passe quoi du coup après le 30 mai?
Après le 30 mai, la Norvège, elle tombe.
Ouais. Genre, Narvik aussi, tout le monde coule.
Oui, tout le monde coule. Ouais. Okay. Alors, autre point chaud, est-ce que vous êtes allé à Drøbak?
Oui. Non. J'ai voulu y aller, mais j'ai pas encore eu l'occasion.
C'est mignon, Drøbak. C'est une petite ville.
Je sais.
Alors, en bateau, je crois que c'est une demi-heure.
D'ici
en bus, ça doit être une heure.
Ah ouais.
Ouais. Je sais pas s'il y a des bateaux encore qui y vont.
Parce qu'il y a une forteresse.
Et puis, il y a la maison du Père Noël, surtout.
Ah, mais attends, mais c'est en Laponie, ça.
D'où le pont avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, du coup, il y a la forteresse. Ouais, bien vu, chez
Alors, attends, c'est Drøbak, c'est ça?
Drøbak.
Drøbak,
oui. Avec un haut-barré.
Ok. Drøbak. Merci.
Alors du coup, Drøbak, j'ai dit qu'en avril 1940, on a les Allemands qui arrivaient et ils ont envoyé un bateau, notamment. Enfin, en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils attaquaient en priorité les villes, donc Oslo, Trondheim, Stavanger, Bergen. Et ils ont, pour Oslo, il y avait une opération assez spéciale parce qu'on parle de la capitale. Donc le but, en fait, c'était de remplacer l'administration norvégienne par une administration allemande qui permettrait du coup de prendre le but c'est d'envoyer une administration allemande pour remplacer totalement l'administration norvégienne et prendre le contrôle du pays depuis Oslo. Donc pour ça il y a un bateau et notamment il fallait également capturer roi, gouvernement et parlement. Du coup il y a un bateau qui était fait pour ça, qui était le Valentin. Ne lâche pas, il est quelque part ce bateau. Butcher.
Butcher. Ah, qui porte bien son nom. Oui.
Ça veut dire.
Le boucher.
Boucher. Ah, ouais, bah oui.
Waouh.
Et du coup, dans ce bateau, on va avoir le commando, on va avoir le groupe de commando allemand, de soldats allemands, qui doit capturer le roi et tout le gouvernement. Et on va avoir tout un personnel administratif allemand aussi, qui doit prendre le contrôle administratif de la Norvège. Donc ce bateau arrive à Drøbak et si vous regardez un peu une carte du fjord d'Oslo, parce qu'on se trouve dans le fjord d'Oslo, il n'y a qu'une entrée dans ce fjord et elle se fait au niveau de Drøbak, qui est très étroit. Et il y a la forteresse. Et depuis la forteresse, en fait, les soldats norvégiens vont réussir à tirer quelques missiles ou, je ne suis pas un spécialiste de la guerre, bref, tant pis.
Des canons.
Et ils vont faire couler le Butcher. Et ce qui va permettre en fait de gagner un précieux temps pour le gouvernement et à Oslo, et notamment le roi, le gouvernement, ils vont pouvoir partir vers le nord.
Puisqu'ils avaient encore contrôle de la forteresse, que tu veux dire.
Oui, les Norvégiens, en avril 1940, ouais.
Ils arrivent à détruire le bateau qui était venu pour détruire leur gouvernement et le roi. D'accord, bien compris. Oui.
Donc on a le gouvernement, le roi qui arrive, et le parlement qui arrive à fuir Oslo vers le nord, là où la voie était encore dégagée. Et en fait, ça va leur permettre de continuer un peu à gouverner le pays, le temps que finalement les Allemands prennent totalement contrôle du pays, mais ils arrivent à fuir vers le Royaume-Uni. En fait.
D'accord.
Donc, précieux temps de gagner. Et enfin, last but not least, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette opération, qui s'agit de l'explosion de l'usine de Vemork.
Le nom me parle, mais alors je ne saurais plus.
Alors, moment clé.
Désolé. J'ai pas.
Moment clé de la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous avez vu le film Oppenheimer ou pas?
Oui.
Non. Non.
Bon, un moment de... C'est pas grave. Comme ça.
Pouce en l'air.
Donc on est deux.
Deux contre deux. Ouais.
Bon, de toute façon, c'est pas grave. À un moment, pour faire une bombe atomique, on a besoin de quelque... Enfin, c'est la fission nucléaire, la bombe atomique.
De quelque chose.
Voilà. Un peu d'uranium. Et on a besoin d'eau lourde. L'eau lourde qui va contrôler la réaction nucléaire.
OK.
Bref, du coup, en définitive, l'eau lourde est un élément précieux pour construire une bombe nucléaire. Et à ce moment-là, on avait, en 1940, on avait la course entre les Américains et les Allemands avoir celui qui sera le premier à avoir cette bombe atomique. Mmh. Il se trouve qu'en Europe, la seule usine qui fabriquait de l'eau lourde, alors je ne sais pas par quel procédé, c'est l'usine qui est située à Wermork. Et du coup, les Allemands vont commencer à produire... déjà, au début, se fournissaient en eau lourde directement auprès de la Norvège, voilà, quand on parle de commerce. Et après, ils ont pris du coup, le contrôle de l'usine d'eau lourde une fois qu'ils ont pris le contrôle du pays. Donc les Américains commencent à s'inquiéter, les Alliés commencent à s'inquiéter, et du coup ils vont monter une opération pour aller faire exploser, pour détruire cette usine.
Ah ouais.
Et on se retrouve du coup en novembre 42 avec un régiment expéditionnaire, un contingent expéditionnaire anglais, qui va avec des Norvégiens essayer de faire sauter cette usine. Sauf qu'en fait l'avion s'écrase près de Stavanger et les plans sont révélés aux Allemands.
Oh, putain.
Ils arrivent à s'en saisir. Du coup, il y a une autre opération qui est montée, et avec que des Norvégiens, parce que là, il s'agit d'intervenir en hiver, en février.
Il fait beaucoup trop froid.
Ouais, il fait beaucoup trop froid, et il y a de la neige, il y a de la glace. Du coup, ils vont faire ça en ski.
Ah, génial.
Oh là là, mais ça, c'est
tellement norvégien.
Ça, c'est un nouveau James Bond, ça.
Ouais. et du coup, ils vont descendre la montagne comme ça en ski. traverser une rivière gelée. Ils vont réussir à s'infiltrer dans l'usine sans jamais se remarquer. Ils vont poser la bombe, ça va péter. Ils vont laisser des traces, des uniformes anglais pour faire croire que c'est les Anglais qui ont fait le coup.
Allez,
pourquoi
stratégie.
Attends.
Comme ça, on n'a pas de représailles sur le peuple norvégien.
Ouais, putain, smart. Il y a un film qui a dû être fait.
Oui, il y a
un
film,
ça.
Je crois.
J'ai pas sûr, j'ai envie de le voir.
Titre,
parce que là, ça me paraît déjà très...
Bah ouais.
C'est une histoire super.
Ouais, de fou.
Et mieux que ça, les Norvégiens, toutes ces personnes qui ont monté l'opération, ils ont réussi à fuir sans les saufs.
Génial.
Certains ont réussi à rentrer en Angleterre, certains ont réussi à fuir en Suède, et d'autres se sont carrément tapis dans la montagne. Et ils ont pu continuer à faire des opérations comme ça de résistance.
Ah, c'est génial.
Et d'autres sont cachés à Oslo aussi.
J'adore cette histoire.
Mm.
Je vais regarder un film sur
Donc,
ça.
voilà.
Et je vais le faire si jamais il y
en
a pas.
Et à la fin, ça a permis aux Allemands apparemment de vraiment mettre un gros coup de frein à leur programme nucléaire.
Ouais.
Voilà.
Et
oui, parce que c'était peut-être pas le moment pour eux d'avoir accès à une arme nucléaire à ce moment-là. Je pense que c'était un bon timing pour leur couper l'herbe sous le pied.
C'est cool. C'est bien qu'il n'ait pas eu avant les Alliés.
Pouce en l'air.
Oui, c'est pouce en l'air.
On valide. Ben, on a hâte de savoir. On va peut-être faire une petite recherche, savoir s'il y a un petit film qui parle de cette histoire rocambolesque pour terminer cette histoire de Seconde Guerre mondiale et la résistance. De la Norvège. On va faire une petite pause. On va écouter Boris Vian, la Java des bombes atomiques, le choix de Valentin.
Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu que mon âme et conscience, en détruisant tout cette tordue, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Eh bien, nous avons écouté Boris Vian, la Java des bombes atomiques. D'ailleurs, il faut faire la liaison de bombes. C'est bombes atomiques ou bombes atomiques ?
Bombes atomiques, je ne vois pas de T, donc je dirais un S. Ouais.
Donc, c'était ton choix. Merci pour ce choix.
Ben, Boris Vian, ça fait toujours du bien, surtout en ce moment.
Oui, c'est top.
Si on veut nous suivre, il y a l'émission, il y a la page Instagram Brisons la glace, Brisons la glace tout attaché, underscore, donc c'est le tiré du bas. PFN. Et on a là aussi la page Facebook, Brisons la glace, tout simplement. Et vous pouvez également nous suivre sur SoundCloud en rentrant simplement Brisons la glace et vous tomberez sur toutes les émissions qu'on a enregistrées depuis le début.
Brisons la glace.
Voilà, je voulais juste rajouter notre nouveau jingle et remercier en bonsoir passant le formidable Rodrigue Ducourant qui m'a aidé à faire ce jingle. Alors,
on le remercie chaudement pour ce nouveau jingle de Brisons la glace. Comme quoi, l'émission se développe tranquillement. On apprécie aussi vos retours, vos commentaires. Si vous avez des envies, des gens que vous pensez qu'il faut qu'on invite, n'hésitez pas à nous faire un retour. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle journée mondiale. c'est quelque chose de très important dans la vie de tous les jours. Le 20 octobre, c'est la journée mondiale de la statistique.
Ah, bah, tu nous fais rêver,
quelle
là.
Quelle journée de dingue.
Du data, du camembert, là.
Super.
Mais sachez que donc cette journée a commencé en France, hein, d'ailleurs. Donc c'était pas le 20 octobre, mais en fait, depuis 1970, il y a quand même des journées nationales de la statistique qui sont célébrées, organisées par la Société française de statistique. Voilà, il y a quand même des chercheurs des enseignants, des praticiens qui venaient, voilà. Et en fait, depuis 2010, donc on célèbre mondialement, voilà, les data. Donc je me suis dit, on va parler de ça.
Mmh, bah c'est super, ça.
C'est super.
On est ravis. C'est vraiment, je suis ravie là.
Alors, dans un espace vectoriel.
Mais je sais.
Perdu déjà,
mais alors, j'ai commencé doucement. Donc, cette chronique est sponsorisée ou pas par Statistique Central Bureau of Norway, ssb.no. Et j'ai commencé par m'intéresser à la récurrence de nos prénoms en Norvège. Donc, à votre avis, on va commencer par toi, Valentin. Combien il y a de Valentin en Norvège?
Alors attends, Valentin ou Valentin version norvégienne?
Valentin écrit comme son prénom Valentin. On peut faire la cloche qui est un peu loin pour
combien
toi.
Combien il y en a?
Combien il y a de Valentin?
Un chiffre exact.
Alors, sachant qu'on a à peu près 5000 Français.
Je vais aller plus loin.
Seulement?
Je vais aller plus loin. Je vais préciser. Combien y a-t-il d'hommes qui ont Valentin dans leur nom ou dans leur nom de famille?
Ah.
Ou comme deuxième nom?
En Norvège.
En Norvège.
2000.
Donc toi, tu dis 2000.
Ouais. Moi, je pense que tu t'emballes.
Arrête, tu t'emballes, Evan.
150, c'est pas assez.
Sachant que j'en ai pas croisé. Hein.
Ah, bah, oui, c'est ça. Non.
128.
255. Okay.
Bon, c'est Emma qui est la plus proche. Au total, il y a 307 hommes.
Ah, pardon.
Mais j'allais dire...
C'est pas mon de l'association, Suzanne. Hein.
Mais parce que vous avez toutes les deux raisons, il y a aussi 168 hommes qui l'ont comme premier comme prénom.
Okay.
Donc les autres l'ont ou dans leur nom de famille ou dans leur middle name. Okay. Voilà. Sachant que il y a un top. Donc c'était populaire en 1880. Voilà. Avec 0,04% des naissances en Norvège.
Pas mal, non, c'est
pas terrible, pas terrible, pas terrible. On va passer à toi, Emma. Alors,
dans les prénoms à la mode.
Ouais, donc, combien y a-t-il de Emma en Norvège?
Ah, c'est plus.
C'est beaucoup plus là, largement. Emma, c'est anglophone 000. Aussi, saxophone.
Ouais, 400 000.
C'est anglo-saxon.
400 000.
C'est
Emma, elle s'emballe.
J'ai pas de non, mais bon, je m'emballe, j'en sais rien. Là, c'était un des prénoms les plus donnés, alors je sais pas. C'est,
Alors, combien il y a de femmes qui portent Emma dans leur prénom? Bon, alors, Valentin, on les a déjà perdus, on vient à peine de commencer!
Mais il y a personne qui a entendu qu'elle a dit saxophone ou anglo-saxon, sérieusement. Bref, alors, 300 000.
300 000?
Bon, 100 000, moi j'allais dire.
Non, oui, d'accord. Et toi, t'avais dit
ça. Moi, je m'étais emballée. Mais
un million.
Beaucoup moins.
Non, il y a 13 418 femmes qui ont le prénom Emma.
J'ai encore gagné.
Mais, question subsidiaire, combien d'hommes ont le prénom Emma?
12. Hein?
Oh, 13.
Waouh, ouais, ouais. Alors là, mais alors, je n'ai pour le coup jamais rencontré un Emma.
Voilà.
Là, ça
le top DMA, naissance en 2003. Bon, ça commence
Emma,
à dater, c'est à 20 ans, mais voilà, pas mal. 2,5% des naissances en Norvège, bravo. Roxane, combien il y a de Roxane? Alors là, c'est quand même la catastrophe.
Ah ouais, tu
faisais le X.
Bah déjà, même en France, on a peine un mot, alors en Norvège.
Donc, j'ai bien vérifié avec un X et deux N.
Ah bah ça tombe bien, c'est un N.
Ah, bon. Alors... C'était presque pareil.
Oui, c'est pareil.
Alors, avec deux N, il n'y en a que 23.
Oh
ouais. Je ne vous ai pas laissé deviner.
Bah, parce qu'on a dit que c'était avec un N. Alors, je vais
mais il
n'y
a que moi,
de toute façon.
Je ne suis même pas encore déclarée, donc
zéro. Je suis même. Ben, 14, voilà.
Ah, c'est proche, quand même.
Bah, voilà.
Oui, 23-14, ouais, c'est vrai. C'est
alors, pour ma part, Suzanne. Combien y a-t-il de Suzanne avec un Z et deux N?
Ah, là, ça doit
en Norvège.
Pas des masses non plus, on doit être plutôt sur du Susanna.
Oui. Moi, j'irais 130.
130, ouais.
Moi, 1500, j'ai dit.
Oh, t'es un peu généreuse, okay, et toi?
Ouais, moi, je dirais pareil, 200.
Ouais, c'est pas là. Donc, en tout, ils en comptent 350, dont 217 qui ont le prénom Suzanne comme prénom.
Ouais.
Avec un pic en 86, voilà. Si je cherche avec un S, par contre, pas avec, ouais, un Z, voilà. Là, il y en a beaucoup plus, donc c'est 4286.
Suzanne. Non.
Quels sont les prénoms les plus populaires en Norvège en 2023? Alors, citez-moi le top 5 des filles.
Okay.
On va faire les deux. Alors, les filles.
Eva.
Théa.
On continue. Donc, pour l'instant, non.
Silie. Siliei.
Non.
Idun.
Non.
Christine.
Arle.
C'est un prénom de fille?
Oui.
Sophie.
La fille du Rémi qui s'appelle.
T'as dit quoi?
Christine.
Non.
Sophie.
Oui. Alors, oh. Sophie est dans le...
Hey, mais je...
Alors, à vrai dire, les chiffres sont hyper... Enfin, c'est vraiment top 5, mais bon, de pas beaucoup, quoi. Donc, okay. Sophie, bien. OK. Il y a
Aurora.
Emma aussi.
Okay.
Il n'y a pas d'Aurora.
Il y a Emma aussi.
Ouais, Emma.
Ouais, mais je sais, c'est les prénoms populaires.
Ah, alors après, populaire, mais c'est que 1,5%
bah ouais,
des naissances.
Ça.
Donc il y a quand même une grosse compétition. Top 1, Nora et ses déclinaisons écrites différemment. Emma, Olivia, Ella et Sophie avec plusieurs orthographes.
Ella?
Les garçons.
Attends, il y a Ella en prénom.
Ella, ouais.
Okay. Tour.
Tour, non.
Olav. Olag.
Non.
Tom.
Tom, non.
Thomas.
Non.
Vind?
Non.
Trygve.
Alors, ces noms ne sont pas forcément... ils ne me sautent pas aux yeux de qui sont norvégiens.
Bon, Daniel?
Non.
Fred?
Non.
David?
Non.
Herman?
Ça non. Peut durer 3 heures.
ouais. Alors, il y a Noah.
Jürgen.
Ah.
Il y a Lucas ou Lucas.
Ah ouais.
Ah oui.
Émile.
Ok. Ah oui.
Et
très français.
Le égalité avec Noah, c'est le Jacob.
Ok.
Ou allemand.
Oui, effectivement.
Voilà. Ok, donc là, c'était la petite case échauffement. On va parler de population. Donc là, peut-être que vous serez un petit peu plus proche. Combien y a-t-il d'habitants?
Pas forcément.
On va voir. Combien y a-t-il d'habitants à Longyearbyen, à Svalbard?
Hein?
Combien y a d'habitants à l'année à...
Quoi?
Dans Svalbard.
À Svalbard, peut-être 110?
Il y a 110 habitants à Svalbard, tu dis?
Ouais, maximum.
Mais c'est où? Puis avoir une indication sur un
c'est
peu.
C'est nord,
c'est
vraiment
l'île
nord.
Qui est reculée. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent. Des ex. Ouais. Bon.
Ah, donc il y a beaucoup de gens. Tu viens de le dire toi-même.
J'essaie de donner un indice. C'est un peu...
Allez, 5000.
Peut-être un peu en dessous.
5000.
2005.
Ah non, moi je pense qu'on est à moins de 1000.
Ah bah non, et Roxane est là.
Et mais je suis on fire aujourd'hui.
2596. Bah,
que de la chance, c'est vraiment important.
Oui, complètement. Je dis saxophone, il est
là.
Avec une majorité d'habitants.
Il y a deux minutes, on ne savait pas où c'était.
Ne rage pas trop.
C'est
ça,
où ce truc déjà? Ouais. Majorité d'habitants entre 20 et 66 ans, donc les actifs et leurs enfants. Là, on parlait des Samis un petit peu plus tôt. Combien y a de personnes Samis en Norvège?
120 000.
Sachant que les chiffres datent de 2021. Donc tu dis combien?
120 000.
120 000. Sachant que la population est en baisse.
Ouais. 100.
T'es un peu... T'es pas assez généreux, Valentin.
C'est vrai?
Mm-hmm.
327 000.
Ah non, j'aurais
ça
dit
se rapproche.
Ouais. Oula, ah ouais? Autant? Mais il ouais. n'y a que 5 millions de personnes en Norvège. Bah, ah oui, mais parce qu'après, ça reprend pas... c'est pas que en Norvège, ouais.
Attends, c'est les Samis en Norvège?
Non,
ou
les
c'est...
Samis en Norvège.
Mmh. Ah, ok. 400 000, ouais. 400 000.
405 000. Ouais. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais la langue sami a plusieurs dialectes.
Mm-hmm.
Il y a le lul sami, le sami du nord, le sami du sud. Et en ce moment, c'est le dialecte du nord qui semble prédominer. Combien d'enfants reçoivent une éducation en langue sami, à votre avis?
Beaucoup.
Ouais. Ce qui paraît très peu par rapport au pourcentage
de
ces 405 000.
2000.
Ouais. 10 000. Emma.
Ouais, 8 000.
Ah, vous êtes très loin, c'est 874 enfants qui reçoivent une éducation en langue sami, vraiment pas beaucoup.
Parce que je crois que l'endroit, je crois que là où il y a le plus de sami maintenant en Norvège, c'est à Oslo en fait.
Ils ont été tous.
Mais il y a combien d'habitants en Norvège?
4,5.
5,5 millions. Ah, okay.
Donc on est à presque 10% de la population qui est sami, quoi. Parce que c'est 400 000. Mmh. Ah non, pas du tout, ouais. 10%, si.
Bah oui.
Bah oui.
Mmh. Eh, c'est chaud, hein.
Ouais, c'est énorme.
Un peu moins, 8%.
C'est... Alors, en parlant de pourcentage de population, combien en pourcentage de la population sont représentées les personnes immigrées et enfants de personnes immigrées en Norvège? On prend le sens immigré au sens large. Combien de pourcentage par rapport à la population norvégienne?
15%.
30.
En pourcent, 12.
Ah, c'est Valentin qui gagne, c'est 16% de la population qui est immigrée. Combien ça représente de personnes, si on repart en des maths?
600 000.
C'est 877 000.
Ah, c'est vrai qu'on est sur la journée de la statistique.
Ouais,
ah,
ouais, ouais, voilà.
J'ai tendance à oublier. Là.
Mais,
en prochain, on décale. Hein.
Un peu difficile. Ouais, d'où viennent ces immigrés en majorité?
De l'Est.
Le continent.
Pologne.
Le continent.
Europe.
Europe.
Afrique.
Non, c'est l'Asie.
Ah ouais?
Avec plus de 265 000 personnes qui viennent de ça. Là, le deuxième contingent, c'est les pays récemment devenus européens comme Chypre, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie.
Et de quel pays tu sais en Asie ou quoi?
Il ne précise pas.
Thaïlande n'a pas.
Ouais, je pense que c'est Thaïlande. Ouais, okay.
Il y a eu une grosse
vague thaïlandaise à un moment.
Bien, je me suis intéressée au salaire maintenant. Quel est le salaire annuel moyen en Norvège?
En couronne ou en
couronne?
Les deux, j'ai fait la conversion.
600 000.
Ouais, donc je dirais 600 000, ouais.
En euros, tu dirais combien?
Ah, vous êtes
en
euros?
Ah non, je suis en couronne.
Ah oui, ok, je me suis dit, attends, putain, le bordel de merde. C'est
non,
beaucoup.
Non, bon, ça fait
600 000 couronnes.
C'est pas très cher, la de la Russie.
Ouais, vas-y, finalement, ça va. Moi, qu'est-ce que je dirais? Je dirais... c'est quoi en France, on sait ou pas? Non, bah, 70 000, allez. Je vais arrêter de réfléchir.
En euros, 70 000?
Oui, en euros.
D'accord, donc c'est 635 000 NOK par an, soit à peu presque 55 000 euros. Ce qui est quand même assez énorme par rapport... je ne sais pas quel est le salaire moyen des Français.
T'as dit que c'est médian ou la moyenne?
En France, la moyenne.
C'est peut-être
Parce qu'après, quand tu prends le médian, c'est différent. Du coup.
Ouais, il propose... Ouais. Alors, je t'invite à aller sur
j'ai
SSB.
Déjà fait ma recherche.
Il a déjà passé tellement de soirées sur SSB.
Non, mais c'est juste... Avant de chercher un emploi, tu te renseignes un peu. Tu ouais, est-ce que je me fais avoir ou pas?
Ouais. En France, c'est 22 000. Salaire moyen annuel.
T'imagines, c'est plus du double.
Bah ouais, hein.
Ouais. Alors, en Norvège, quand on regarde un petit peu plus sur les salaires, on voit quand même qu'il y a une inégalité entre les salaires des hommes et des femmes. À votre avis, quel est ce pourcentage de différence?
Ah, ça, je sais, je crois que c'est à peu près 8%.
Ah, tu dis 8%?
Non.
Ouais.
En moyenne. 10,
aucune
idée. 15%.
Mais... C'est 12%.
Ouais, voilà.
T'as dit quoi? Non, ça avait baissé en Norvège, justement. Enfin, je vais attendre. Pardon. J'avais été, mais remarque, ces chiffres datent de 2021, ils doivent être plus justes. J'avais assisté à des rendez-vous féministes.
C'est par secteur, après.
Ah oui, ça, voilà, c'est la moyenne. Peut-être la moyenne. Mais en tout cas, en moyenne, on est plutôt sur un 8%.
Ça dépend des secteurs. Dans le secteur privé, ça
Parfois, c'est même 5, donc on se rapproche. Voilà.
Ce qui est quand même beaucoup moins qu'en France.
Ah, ce qui est quand même déjà un large progrès par rapport à la France. Ouais. Oui.
En France, c'est 20%.
Ouais, c'est ça, un peu.
Oui,
près.
Oui, c'est terrible. En France, c'est déjà beaucoup plus juste.
Oui, enfin, la Norvège est de toute façon plus avancée sur pas mal de sujets. Concernant l'inclusion.
Exactement.
Et pour terminer,
l'incision.
Pour terminer ma chronique, je voulais vous poser 4 questions sur des sujets divers et variés. Première question, combien de Norvégiens en pourcentage usent le snus?
100%.
Tous.
Le snus, ils l'usent.
Je pense que c'est 50%.
Oh non, ça fait énorme, 50%.
Mais moi, j'irais plus, tout le monde prend du snus.
Bah, je prends mon entourage, je fais un échantillonnage dessus. Voilà.
Et en France, j'ai entendu que le snus rentrait dans les drogues. Le truc.
Bah, parce que c'est illégal, je crois, la vente en France.
Donc. Ah oui, non, mais c'est. Enfin bon, bref, on est.
Donc combien est drogué en Norvège?
C'est ça, 60%. Allez.
60%.
Mais moi, j'en mets 50%,
non,
c'est énorme.
Ah, tu dis quoi?
18.
Bon, tu gagnes, c'est 15%.
Putain! Mais alors, je vois que ça, bon, il faudrait que je change mon. Ma vision de voir les Norvégiens. Ouais, attends. Après, j'ai abusé effectivement avec les 60%, mais.
Ouais, c'est peut-être la jeunesse.
Il n'y a pas que les adultes en Norvège.
Ça se passe en soirée, quoi. Tu vois, là, dans les soirées étudiantes, ça doit y aller, là.
Je ne sais pas si tu étais là, qu'on avait dit que la moyenne d'âge des Norvégiens, c'est 35 ans.
Ah non, je n'étais pas. Vous n'étiez pas
un peu trop là en avance.
C'est une nation assez jeune, donc 60%, c'est un peu compliqué.
Enfin, mais c'est les jeunes qui prennent du snus.
Oui, mais il y a quand même pas mal d'enfants, donc ces gens-là, ils prennent pas du snus.
Enfin, après, à partir de quel âge? 16 ans, t'en prends, non? Enfin, je pense.
Je sais pas.
Je sais pas.
Si vous êtes un habitué du SNUS et que vous voulez participer à l'émission Brisons la glace,
que vous êtes francophone,
c'est ça. Ouais. On vous invite. Une autre question qui m'a un peu surprise de la réponse. Sur 2,9 millions de voitures en Norvège, combien sont électriques?
2,8. Encore une fois, je rigole.
1,5, je pense.
Ouais, je... 1,7 peut-être.
Il m'a semblé la même chose, mais non. C'est un juste en dessous de 600 000.
Oh.
Ah ouais,
c'est Oslo, c'est électrique.
Je pense, ouais, je pense que c'est on a une idée faussée, ouais, en observant, mmh, ce qui se passe sur,
oui,
Oslo.
Parce qu'ici c'est que des Tesla.
Tesla, bah ouais, c'est ça.
Putain, c'est, mais t'en as 4 à la suite tout le temps, ouais, quoi. C'est, ouais, un truc de fou.
Donc, ouais, ce n'est pas forcément la même chose partout en Norvège. Deux dernières questions. Quel est le loyer moyen pour un appartement 2 pièces en Norvège? Et on pouvait aussi me donner le chiffre à Oslo.
15 000 couronnes.
Oslo, c'est 18 000.
En moyenne, pour un 2 pièces.
2 pièces. 15 000 à Oslo.
15 000 à Oslo.
Mm-hmm.
J'en ai aucune idée.
Alors peut-être que vous avez
raison. En Norvège, 8 000.
Les chiffres officiels sont de 9 880 NOK pour la Norvège et de 12 700 pour la commune d'Oslo et Bærum.
Okay. Ah, ça augmente.
Et la dernière question pour faire écho à ta chronique, yes, Roxane. Les prix des biens et services en Norvège, comparés à l'Europe au sens large, combien ils sont plus chers? De combien en pourcent sont les produits plus chers qu'en Europe?
30.
Les chiffres sont de 2022.
Plus
22%.
Roxane, la Norvège par rapport
au reste de l'Europe.
Au reste de l'Europe,
ouais.
Bah, c'est 30%, on l'a vu, par rapport à l'Islande. Donc non, bah, c'était 120%, mais je ne sais pas. On va dire 60%.
Ah, c'est par rapport au reste de l'Europe, ouais, ouais. Du coup, c'est plus encore.
C'est plus, hein. C'est... Moi, j'avais vu, ouais, 120%.
Vas-y, 40.
Alors après, il faut prendre tout, ouais, c'est vrai, tous les produits, dire, donc, 60... pas forcément que la bière.
Ouais, non, c'est vrai. 60%.
Les produits et les services.
Ouais.
43%. Ouais. Ouf. C'est quand même un sacré budget de vivre en Norvège. Enfin voilà, donc on a pas... voilà, on a célébré, ouais, la journée de la statistique en faisant un petit rappel des statistiques... de ce qui se passe en Norvège.
Si vous êtes pauvre, ne venez pas.
Non.
Mais si vous êtes employé qualifié dans les mines, là, c'est le meilleur, ouais, salaire mensuel, 82 000 en moyenne. Putain, ouais, NOK par mois. Bon, après,
c'est
à vivre.
C'est un choix de vie.
C'est ça.
Svalbard, les loyers sont moins chers.
On vous laisse juger. Hein. Alors, Emma, pour cette coupure musicale, on va écouter Great Teacher Isaba, qui a fait un morceau avec Kerry James qui s'appelle Statistique.
Si aujourd'hui je prends le chromie, ce n'est pas pour te parler de balistique. Bon, t'as l'habitude, mais cette fois-ci je kick. C'est pour qu'on fasse un peu de statistiques. Qu'on étudie les caractéristiques d'une population ou d'un ensemble de gens. Ça peut être leur note, leur salaire, leur âge, leur poids, leur taille ou même leur nombre de dents. Pour commencer, l'effectif global, c'est le nombre total qu'il y a d'éléments. Des éléments qui ont tous une valeur, si c'est plusieurs fois la même, ce n'est pas gênant. On peut résumer tout ça dans un tableau de deux lignes, donc pas de paresse. Dans la première, mais les valeurs possibles. Dans la deuxième, le nombre de fois qu'elles apparaissent.
Et voilà, comment rendre les statistiques fun, ouais. C'était Great Teacher Isaba pour Statistique, un morceau punchy, quoi.
Ouais, mais je pense que si j'avais découvert au lycée, ça m'aurait bien aidé.
Voilà, donc on va terminer l'émission avec toi, Emma. Tu vas nous parler conseils pour survivre.
Alors, je vous lance un petit jingle d'abord.
Vas-y, lance-nous un petit jingle.
Donc, bienvenue dans mon télé-shopping. Dans mon télé-shopping tech. Pour bien affronter l'hiver, vous avez tous remarqué, là, c'est l'horreur, on a ressorti les manteaux.
C'est dur.
Donc voilà, donc moi, je vous ai proposé et préparé un petit shopping pour affronter l'hiver à la fin de la Fashion Week parisienne. Ah, on passe à la Fashion Week norvégienne, donc on jette ses talons au fond du placard et on affronte l'hiver. Alors, on commence avec donc un bon manteau, hein, ça, c'est un peu la base. Évidemment, vous pouvez la pimper avec des vestes connectées qui vont vous réchauffer pendant 5-6 heures, putain, grâce à plein de petits trucs USB qui vous permettent de recharger, ouais, votre veste le soir. Et ensuite, donc, elle vous tient au chaud pendant à peu près 6 heures.
C'est super écolo, ça.
Ah ben alors, moi, là, je ne suis pas dans l'écolo. Là, on est clairement, sur le shopping cadeau de Noël, en fait. Gadget inutile. Ouais. Voilà, donc la veste chauffante USB, on trouve ça ça commence à une centaine de dollars sur les sites américains. Mais on en trouve aussi en Norvège. Donc, sachez qu'on parle de smart clothing.
Mm-hmm.
Ok, donc après le manteau, on va évidemment penser aux gants.
Oui, ça c'est important.
Ouais. Donc ça, en Norvège, indispensable. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du mois de novembre, vous allez voir, vous ne pouvez plus sortir la main de vos poches.
Super.
Donc j'espère que vous avez des AirPods. Si vous n'avez pas d'AirPods, tant mieux, nous avons des solutions pour vous. Alors, sans connexion, la paire de gants à la con avec les petits trucs digitaux tactiles incrustés au bout des doigts qui vous permettent quand même de texter, de répondre au téléphone. Donc le AirPod reste quand même une option pas mal, mais ils ont aussi quand même inventé des gants. Vous aimez Nabila, vous vous rappelez du... Allô ? Donc la position classique de l'index et du pouce, pas l'index, si l'index et le pouce.
Non, le petit doigt.
Le petit doigt et le pouce, pardon. L'auriculaire.
Ouais, voilà,
l'auriculaire.
Pas un enfant de 3 ans.
Donc voilà, il y a des paires de gants. Donc là, c'est un shopping de Noël connecté où, donc en gros, quand vous vous mettez en position, il y a un microphone intégré.
Je les veux. Génial. Tu te balades dans la rue comme ça, quoi.
Tu te balades dans la rue avec ton gars.
Ah, c'est génial.
Non, mais allô, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Publicité disait pas si quand même c'est tactile pour pouvoir répondre.
On était obligé de répondre au téléphone.
Mais est-ce qu'il faut que tu appuies sur ton ordinateur? Auriculaire, je décroche.
Ouais. Ah, voilà.
Non, mais c'est génial. Voilà. C'est combien? T'as vu
ça,
les prix
pas?
Pas
cher. Oui, oui,
ah bah, c'est le prix
oui,
de 3 bières.
Ah bon, ça va.
Alors. La veste, c'était 10 bières. Hein.
70$ sur Amazon.
Ah, oui.
Bon. Non, on est sur un cadeau de Noël.
Ouais,
clairement, vas-y, offre-moi le gadget gant.
Ah, moi, c'est vraiment ce que je veux pour Noël.
Ouais, c'est un gant. Alors, après, pour les mimines, il y a quand même toujours aussi plein d'accessoires. On en a trouvé un spécial ordinateur. Donc, c'est des espèces de mitaines chauffantes en forme de toast. Hyper kawaii, hyper mignon. Donc voilà, qui vous permet quand même de taper sur votre ordinateur.
En forme de toast, attends, pardon, je comprends pas, je visualise pas.
Tu visualises pas.
Donc c'est des tartines. Donc
c'est avec des dessins de tartines.
On pourra l'ajouter dans la story Insta.
Oui, je pense que ça mérite le détour.
Le public veut savoir, je pense.
Ouais, parce que moi, je n'arrive pas à visualiser.
Le peuple veut des réponses.
Voilà.
Donc littéralement en forme de toast. Quoi,
littéralement en forme de toast. Ouais. Et donc les doigts, voilà, c'est hyper kawaii. C'est très japonais, très kawaii.
On dirait vraiment deux tranches de brioche.
C'est deux tranches de brioche, donc avec les doigts qui sortent au bout, qui vous permettent de tapoter sur votre ordinateur tout en gardant les mimines au chaud.
C'est bien.
Oui. Donc voilà ça. Donc
après,
ça
des
pour
aussi,
289 NOC.
Un cadeau. Oui.
On est clairement sur un cadeau de Noël, intelligent et utile à la fois, mais pas écolo.
À partir du moment où le climat te balance un moins 15, je veux dire, tu déclares la guerre.
Là, oui, c'est vrai.
Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on va passer à la tête.
Cagoule.
Ah bah bonnet,
le
ça
bonnet.
C'est sûr.
Un bonnet.
Mais alors, à votre avis, bonnet avec enceinte, micro, c'est possible ou pas?
Bah oui.
Bah ouais.
Si tu poses la question.
Vous posez la question. Donc voilà, des bonnets Bluetooth avec enceinte connectée, si vous voulez.
Enceinte, ça doit te tuer les oreilles, ça.
Sur Nature et Découverte, tu peux l'acheter.
Ah bah voilà,
j'en ai eu un pour moi.
Alors comment t'es trop en retard, Emma, sur la chronique. Ouais. Je veux dire, ça veut dire un an qu'il les a.
Ah non, mais on n'est pas sur des complètes nouveautés. Là, j'y arrive après. Attends, je ne vous ai pas encore vendu le Total Future. Ça arrive.
Mais c'est comment avoir un bonnet enceinte?
Tu t'en sers qu'une seule fois. Après, tu comprends que c'est inutile.
Ouais, ok, d'accord. Mais je veux dire, ça marche comment concrètement?
Tu connectes en Bluetooth au portable.
Mais non, mais donc t'as vraiment une enceinte ou t'as des écouteurs?
T'as des petits écouteurs, t'as son qui sort. Bon, je pense, j'imagine, tout le monde peut écouter ta musique du coup quand t'es. Quand tu mets la musique à fond.
Oui, après, quand même, sur les pistes, en général, t'as pas collé aux gens.
Ah oui, après, vous mettre sur les pistes aussi, oui.
Enfin, c'est un peu l'idée ou en...
Ouais. Moi, je l'avais à Paris. Mais...
J'ai pas besoin sur les pistes.
Genre le mec qui met la musique.
J'attendais le télésiège, mais jamais venu.
Donc, évidemment, niveau tête, vous pouvez nous pimper tout ça si vous êtes fan de ski. Alors là, on arrive, je vous vends le futur. La réalité augmentée, c'est maintenant.
Okay.
Donc maintenant, évidemment, vous pouvez avoir spécial ski de piste, des casques intégrés avec le masque qui, là, vont être en réalité augmentée. C'est-à-dire que sur votre casque, on va vous donner toute une sorte d'information, le dénivelé, la température extérieure.
T'es en retard, j'ai déjà, en fait.
T'as déjà. Ouais. Parce que bon, donc soit t'as le casque tout en un, soit maintenant les grandes marques s'y sont mises. Genre Oakley vient de sortir donc des goggles. Donc voilà.
Mais c'est pas dangereux ça?
Bah non, BMW fait la même chose avec ses casques moto, mais là on est moins sur l'hiver, donc
je suis d'accord avec Roxane, ça va juste de distraire, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et le casque qui te dit comment freiner en ski de fond ou pas?
Ouais, c'est ça. Enfin, je veux
dire, il va calculer. Il y a même carrément des logiciels qui vont calculer d'emblée. Tu fais une petite sortie avec le nouveau masque ou le casque masque, et là on va carrément te donner ton niveau de ski. Donc toi qui t'es pris pour un peu le roi des pistes, peut-être tu vas te faire
basé sur quoi?
Et bah tes ta appuis, vitesse, ta technique, ta vitesse, ta réactivité, j'imagine, face aux obstacles, des calculs de sauts, des calculs de toutes tes performances possibles et imaginables.
Ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a détection d'accident? C'est-à-dire que tu peux voir, il peut te dire comme une caméra de
j'ai pas creusé à ce point, j'avoue, mais par contre j'aimerais bien essayer, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien essayer.
Écoute, on t'envoie en investigation, tu nous testes.
Donc, allez, voilà.
Au clé, par exemple, le premier masque, hein, mon shopping.
Non.
C'est le Au clé AirWave 1.5, où là, donc on retrouve chez EPS température, altitude, latitude, longitude et autres informations pour 1800 NOK. Donc voilà,
apparemment, c'est correct.
Noël, ouais.
Mais inutile aussi,
à la fois, si je me permette.
Oui, après, on peut passer avec enceinte connectée, etc. Donc là, on passe direct plutôt sur les 350 dollars, voire plus, hein, jusqu'à 800 dollars à peu près pour les trucs.
Après, si tu skis tous les jours, c'est ton taf, ça peut avoir une utilité. Peut-être. Après, combien de fois dans l'année tu vas te servir de ce grand casque?
Oui, mais pourquoi est-ce que tu as besoin? Après, je ne sais pas, je ne skie pas, mais je me demande à quoi sert de savoir à quelle altitude tu es quand tu fais une piste de verte, tu vois.
Je pense que ça s'adresse quand même peut-être aux skieurs avancés qui sont dans la compète. Peut-être que voilà pour les mecs qui font du saut à ski, de la rando, des choses comme ça. Parce que si ça fait GPS, ça peut être.
Oui, GPS, ouais.
Bad, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Ouais, bon. Je suis aigrie et anti-technologie.
Sinon, on va passer au pied. Donc évidemment, l'accessoire indispensable, pas connecté quand on habite en Norvège, c'est quoi, Suzanne?
Les chaussettes en laine.
Ah oui, il y a des chaussettes en laine, donc oui, il y a des chaussettes.
Les grosses chaussures pour...
Non,
tu veux dire les crampons?
Ah bah ouais. Mmh. Donc évidemment, parce que j'allais passer rapidement sur les chaussettes connectées, évidemment, hein, les chaussettes qui vous tiennent au chaud pendant 6 heures. Pareil qu'on recharge un petit truc USB. Les crampons, donc ça c'est l'indispensable, hein. Environ 15 euros, c'est un bon investissement étudiant.
Bien. Ah, mais c'est même pour ta vie.
Tu vois beaucoup de neige à Oslo, tu vas dire oh, c'est beau et tout. Deux jours après, tout ça aura fondu, ce sera transformé en glace et d'un coup, toute la ville sera une piste patinoire géante. Et mais donc, si tu veux éviter, puis même de se faire un peu mal au coccyx, perdre sa dignité en public.
Bon, ça, écoute.
Finalement.
J'ai déjà rêvé plein de fois.
Oui. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas à ça près, mais je préfère faire cloc, cloc, cloc.
Non, mais c'est vrai. Oui.
Et faire un bruit un peu débile, mais ne pas me vautrer quand je marche dans la rue. Ouais. Donc voilà. Donc là, chez XXL, n'importe où, dans n'importe quelle de boutique, on ne saurait que vous confirmer les crampons. Mais évidemment, vous pouvez pimper tout ça avec des semelles connectées, des chaussettes connectées pour rester au chaud et pour finir, les skis connectés.
Ah oui.
Hein, oui. Donc ça, voilà. On a vu aussi des chaussures de ski de piste qui seraient donc qui changeraient un petit peu, auto-changeraient. Quand on les porte, on peut les mettre en mode marche à pied pour plus avoir l'air trop con quand on marche en...
Ça,
c'est peut-être le bienvenu, une des inventions.
Mais du ski de fond ou ski alpin, tu
penses ? Non, là, on est sur du ski alpin, clairement.
Ça fait pas déjà pas mal de temps qu'ils ont changé avec... Ah non, c'était pour le ski de rando, c'est vrai. Il n'y avait pas forcément l'adaptation pour le ski alpin.
Non, mais là, on va, grâce à des petits logiciels connectés encore à vos smartphones, à votre smart Google, à votre smart helmet,
à votre casque,
vous pouvez donc calculer la puissance d'appui sur les skis, la fréquence des virages, la vitesse, l'analyse par le capteur donne une idée du niveau du pratiquant.
Oui, je pense que ça va créer des nouvelles obsessions pour les gens.
Ouais, voilà. Donc,
nouvelles sources de comparaison.
Donc voilà, sinon vous pouvez juste avoir une bonne veste tricotée par mémé, des chaussettes en laine, des crampons.
Ou même vous lancer dans le tricot.
Et
voilà, c'est vrai.
Si vous voulez, essayez vous-même de vous faire vos petites chaussettes pour cet hiver.
C'est vrai,
oui. Ouais. Ben merci pour ces petits conseils.
Voilà, et donc pour terminer, j'avais un morceau, c'était, j'avais envie d'un classique ce matin. Un classique qui parle de futur, donc Robotrock des Daft Punk.
Okay. On va se quitter là-dessus. Ouais, merci, merci à tous les trois d'avoir participé à cette nouvelle émission de Brisons la Glace. On se retrouve en novembre.
Oui.
Très bientôt.
Merci
à vous. Ciao.
Ciao.